Comme à tous les mardis, je reçois Martin Lalonde, gestionnaire de portefeuille chez Rivemont. Monsieur Martin, allô?
Allô, Rec.
Oui. Sujet lugubre aujourd'hui, mais avant.
Oui.
Je ne sais pas si je devrais dire sujet réjouissant. Tu sais, Apple a sorti son nouveau téléphone très cher, puis ça semble pas pogner. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle?
Ça pogne pas. Ben, c'est une mauvaise nouvelle pour les marchés. La raison étant que Apple, présentement, est la plus grande capitalisation, donc influence à peu près tout ce qui se passe sur les marchés. Oh. Donc, une mauvaise nouvelle d'Apple, c'est une mauvaise nouvelle pour le Nasdaq et pour pas mal tout le monde.
OK. Mais qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe présentement, c'est que la demande n'est pas là pour les nouveaux téléphones d'Apple.
Son 1000 pièces.
Écoute, il y a le 8, le 8S, le 10. En tout cas, c'est pas clair c'est quoi le nouveau et c'est quoi le meilleur. Oui, c'est le X, le 10, le meilleur, mais ils ont quand même sorti le 8 en même temps. Présentement, Apple a envoyé une communication à ses fournisseurs asiatiques pour dire on relaxe la production parce que la demande n'est pas vraiment là, ce qui est inquiétant. Mais on peut le comprendre. Je trouve que ça a été une stratégie marketing qui n'a pas été à la hauteur d'Apple cette fois-ci. C'est lequel qu'on achète? On achète-tu le dernier? Puis si on achète le dernier, on se fait fourrer parce qu'il est beaucoup trop cher.
Et il y aura un nouveau dans 6 mois.
Mais il y a toujours un nouveau dans 6 mois. Par contre, c'est toujours le fun d'avoir le dernier avec la dernière technologie.
On est rendu à 10, là?
On est rendu à 8 avec un 10 parce que c'est le 10e anniversaire.
Un que tu as montré, nous autres, on est encore avec du 5 ici.
OK. Moi, j'en connais avec des BlackBerry, hein?
Oui, mais ça, c'est parce que c'est une question de sécurité, là.
Non, c'est une question de contrat gouvernemental.
Ah, OK. Non, mais nous autres, on était à la fine pointe, là. Okay, bientôt, on va le crinquer à main.
Donc, si on finit sur ce point d'actualité-là, on dirait qu'Apple, sur les marchés, une baisse de près de 10% à son plus bas dans la dernière semaine depuis l'annonce du lancement. Et les fournisseurs asiatiques, eux, sur leur marché, ont été jusqu'à 15 et 20% de baisse depuis... l'annonce, pas des problèmes, mais d'une demande moins faible que prévu. Donc,
Est-ce que tu penses que pour stimuler la demande, on risque de baisser les prix?
Je ne sais pas. Apple, à date, ne l'ont pas vraiment fait. Ils baissent les prix quand le prochain s'en vient, donc pour
écouler
les produits. Historiquement, ils n'ont pas fait ça. Est-ce qu'ils vont baisser le prix du 8 plus rapidement qu'ils auraient voulu, possiblement? Mais c'est pas dans leur ADN de faire ça. Donc, ils veulent un marché de niche, les plus chers, les meilleurs. Et présentement, les technologies qu'ils ont avec le 8 notamment sont pas les meilleures, puis sont chères.
C'est pas les meilleures?
Ben, juste pour te donner la grosse nouveauté du 8, c'est le chargement sans fil, si on peut dire, qu'on le dépose sur une plaque. Samsung, ça fait plus de 2 ans qu'ils ont ça.
OK. Fait que présentement, là, toi qui connais la technologie.
Un petit peu. Non, il y a des meilleurs commentateurs technologiques que moi. Là,
mais présentement, tu veux t'acheter le meilleur téléphone, tu es capable d'acheter un Samsung.
Le dernier Samsung puis le 10, je pense que le 10, à mon avis, moi, je suis un gars d'Apple. Fait que c'est sûr que je suis biaisé. Avoir de l'argent acheté à l'eau, j'achèterais le 10, là, mais je pense pas qu'il vaut le prix. Mais je pense qu'il est, oui, il est parmi le meilleur, sinon le meilleur, mais que le Samsung il est pas loin, sinon équivalent.
OK. Excellent. OK, là, sujet un peu plus lugubre. Tu veux me parler des finances, lors de décès, les investissements au décès?
Oui, les investissements au décès, c'est un point qui est hyper important et qui est souvent remis à plus tard. Puis c'est quelque chose que je pense qui est important de planifier. Moi, c'est ce que j'ai le plus difficile au niveau émotionnel à vivre. Pourquoi? Parce que les gens qui ont accumulé un certain montant d'argent sont souvent un petit peu plus âgés. Et quand on arrive à cet âge-là, le décès peut arriver. Puis moi, ça m'est arrivé à quelques reprises que j'ai des clients qui ont malheureusement décédé. Et c'est pour ça que je trouvais important d'en parler parce qu'il est possible de se bien planifier ça.
Attends, je veux juste comprendre ta phrase. Ouais. Les investissements au décès. J'ai l'impression que ça ne marche pas, ce phrase-là. Qu'est-ce que tu veux dire?
Qu'est-ce qui arrive à nos investissements quand on décède?
OK. Quand on décède, qu'est-ce qui arrive à ce qu'on avait placé?
C'est ça.
D'accord, je comprends mieux.
On ne parlera pas de planification successoriale en grand détail. Donc, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Mais on va parler pour la plupart des gens. Ils décèdent normalement. Il n'y a pas de trust, il n'y a pas de compagnie de gestion, des choses comme ça. Qu'est-ce qui arrive avec nos investissements enregistrés, non enregistrés?
Parfait. Mais il y a un testament?
Bon, première chose, c'est important d'en avoir un. C'est absolument primordial de faire un testament. Donc, s'il y a un conseil qu'on peut passer aux gens ici présentement, c'est d'en avoir un qui est notarié. Puis pourquoi je dis ça, c'est que ça évite beaucoup, 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 beaucoup de problèmes au niveau des firmes financières comme la nôtre et les autres aussi. Pour te donner un exemple, la première chose qu'on demande, nous, C'est la preuve, dans le fond, qui est produite que le testament qu'on a, c'est vraiment le dernier, c'est le seul, puis c'est celui-là qu'on va utiliser. Et ça, c'est fait suite à une recherche testamentaire qui est faite avec l'Ordre des avocats, l'Ordre des notaires au Québec. Ça, on peut en parler aussi. Pourquoi il y en a deux? Ça serait mieux s'il y en avait juste un, mais tout ça pour dire qu'ayez un testament notarié, puis ça va éviter beaucoup de choses et beaucoup de temps à vos descendants et aux gens qui s'occupent de vos investissements.
Parfait. On continue donc après la question du testament, qui est le conseil d'usage, puis que à peu près tout le monde qui est venu à mon antenne, que ce soit avocat,
oui,
notaire,
c'est
ou
ça.
Bon, alors c'est un testament tellement plus simple. J'ai 200 000 piastres en REER, puis disons, prenons l'hypothèse, c'est juste ça que j'ai un testament, je cède ça à mon épouse. Est-ce,
oui,
qu'elle va, est-ce qu'elle paye de l'impôt dessus?
Elle peut, elle ne peut pas. Puis je vais t'expliquer la règle de base, c'est que les gens qui ont des actifs d'investis, que ce soit de façon enregistrée ou non enregistrée, au Québec, la règle dit que il est possible, c'est qu'on va appliquer l'impôt de tous les gains en capitaux qui ont été faits dans l'histoire de la personne lors de l'année de son décès. Je vais essayer d'être plus clair. Si jamais on prend une action de BCE qui a acheté 10$, ça vaut 100$ présentement, il ne l'a pas vendu l'année de son décès parce que son dernier rapport d'impôt va être pour l'année fiscale de son décès. Donc, s'il est mort le 1er octobre, ben, c'est entre le 1er janvier et le 31 décembre de cette année-là. Dans son rapport d'impôt, il va inclure un gain en capital de ce montant-là, que ce soit enregistré ou non.
On présume une vente. C'est une vente présumée au décès.
Oui. Une vente présumée au décès.
Même s'il ne vend pas l'action, même si l'action est transférée dans succession.
Exactement.
Alors, le défunt va payer de l'impôt,
oui,
sur un gain en capital présumé.
Exactement. Donc, c'est important de le planifier, ça, parce que ça s'applique, oui, aux actions, oui, aux obligations, mais aussi aux actifs illiquides que la personne peut avoir. Par exemple, un bloc appartement. Donc, la madame, elle a eu un bloc appartement pendant 40 ans, elle a payé 120 000, il vaut 3,2 millions. Au moment du décès, la succession ou la personne qui est décédée, mais sa succession, va avoir à payer le gain capital sur cet actif-là.
Ça te prend du cash, toi, ça?
Ça prend du cash ou des assurances. Donc, il y a une planification successoriale qui est possible de faire en le planifiant. Donc, il va y avoir des gens qui vont commencer à vendre leur actif durant une certaine période avant le décès et d'autres personnes qui vont préférer prendre des assurances pour couvrir le tout. Et si cette planification-là n'est pas faite, la succession va être dans l'obligation de vendre l'actif pour payer le gouvernement. Et
c'est
il
ça.
Est possible d'avoir des certains arrangements avec les autorités pour avoir une certaine période de temps,
voilà,
pour la faire.
Okay.
Mais ça veut dire que la succession ne sera pas libre de tout. Donc, ça peut occasionner d'autres problèmes aussi. Il y a quelque chose que je voulais dire. J'ai dit au Québec, il n'y a pas d'impôt successorial. C'est qu'il y a des juridictions où la richesse des gens au décès est imposée.
Nous, c'est juste le gain capital?
Nous, c'est juste le gain capital. Donc, il n'y a pas d'impôt là-dessus, ce qui est quand même très bien comparativement, par exemple, aussi simplement aux États-Unis où il y a un impôt sur les successions. Quand tu parlais des REER, il y a certains moments où il n'y aura pas d'imposition, mais il va y avoir un transfert de la juste valeur marchande. Je vais te donner un exemple d'un certain compte enregistré, comme le FER ou le FRV. Un FER, c'est quoi? C'est un fonds enregistré d'épargne retraite. Qu'est-ce que devient le REER à 71 ans? Donc, à 71 ans, on est obligé de transférer nos REER dans un FER, et à partir de là, il y a des retraits automatiques qui sont faits à chaque année. Et les fonds de revenus viagers, c'est le même genre de fonds, mais qu'il y a une rente qui est payée. Les deux types de comptes, il est possible de transférer aux survivants rentiers la rente. Donc, de ne pas payer le gain capital sur ce montant-là et de transférer juste la rente. Et la rente sera payée au rentier, au conjoint rentier. Et à ce moment-là, il va juste être imposé quand il va recevoir les montants. Il y a une dernière stratégie que je voulais absolument parler avec toi, Rock, parce que quand on a fait tes recherches là-dessus, ça m'a sauté aux yeux comment c'est intéressant. C'est au niveau du CELI. Donc, qu'est-ce qui arrive au CELI au décès? On sait que quand on décède, on sait que le CELI, de toute façon, il n'y a pas d'impôt. Donc, l'argent grossit à l'abri de l'impôt et quand on le retire, on ne paye pas d'impôt dessus. Donc,
mais il faut comprendre que...
Ouais.
Moi,
on
ça me fait toujours dire, ben oui.
On l'a déjà payé.
Tu mets 1 000$ dans le CELI.
Oui, c'est
ben,
ça.
C'est parce que tu as gagné deux. Si tu es imposé à 50 %, c'est parce que ça t'a fallu que tu gagnes 2 000$ pour mettre 1 000$ dedans.
D'un
il est déjà imposé.
D'un autre côté, s'il n'y avait pas le CELI, ça serait dans un compte au comptant. Et là, il y aurait une double imposition.
Ouais.
Fait que c'est quand même une pas pire invention. Au CELI, lors du décès, si on a un conjoint avec lequel on est marié, il est possible de transférer la valeur du CELI dans le CELI du conjoint. Et que c'est une cotisation qui ne compte pas au niveau des cotisations annuelles. Donc, si quelqu'un, un exemple facile, Le conjoint a 50 000, sa conjointe a 50 000, le conjoint décède. Il est possible de transférer ce 50 000-là dans le CELI de madame qui va devenir un CELI de 100 000 qui va pouvoir continuer à grossir à l'abri de l'impôt.
Ça, c'est intéressant.
Et c'est une cotisation que... c'est ça. La seule chose qu'il faut faire, c'est avertir le gouvernement qu'on fait cette cotisation-là pour avoir le droit que ça ne compte pas pour une cotisation. Voilà. Donc, il y a un formulaire à faire. Et quand on fait ça, ben, la dame, si elle fait des retraits après, ben, ça compte. Donc, elle est devenue avec un CELI de 100 000, puis c'est correct. Donc, il y a des planifications fiscales qui sont possibles de faire. Donc, faire des prêts peut-être avant le décès pour remplir le CELI de la personne qui ne l'aurait pas fait.
Très important, la planification successorale. Ça se planifie le décès, et certes, ton service funéraire, ça peut se planifier, mais la question fiscale puis la question du transfert des actifs, c'est bien important de planifier ça. Parce que c'est pas juste une question de testament. Là. Ça, ce testament, c'est quoi va à qui. Ouais. Maintenant, de bien le faire fiscalement, ça prend une planification importante. Là. C'est, si moindrement que vous avez un petit peu d'argent ou d'actifs, c'est le moment de le faire. Il faut le faire.
Absolument, et ça peut éviter les problèmes. Comme moi, j'ai des décès qui ont été très longs parce que c'était plus compliqué puis que ça n'avait pas été bien préparé. Et il y a d'autres décès qui prennent quelques semaines, quelques mois, puis tout est réglé parce que c'est bien préparé.
Voilà. Merci beaucoup, Martin.
Ça me fait plaisir.
Martin Lalonde, gestionnaire de portefeuille chez Rivemont.